Je suis très très contente d'accueillir Delphine Grouès et Yann Lespousse pour deux romans qui a priori n'ont rien à voir et en fait qui ont plein de points en commun. Et on va voir lesquels. En tout cas, c'est deux romans qui nous emmènent extrêmement loin. Peut-être pas si loin que ça pour vous. On va voir de quel territoire il est question. Alors très rapidement, peut-être une présentation. D'abord, Pour mourir le monde, de Yann Lespousse, 400 pages, alors que vous dites vous-même que vous êtes plutôt un habitué des formes brèves.
Oui.
Voilà. 400 pages qui vont emmener le lecteur. On est dans les années 1626-1627. On va voyager de Lisbonne jusqu'à Bahia, jusqu'à Goa, jusqu'à Bishapur, en Inde, et suivre des navigateurs. Et je dois dire, moi, j'ai été extrêmement impressionnée par l'ampleur des chargements.
Ah oui.
Le nombre de personnes qu'on embarque dans ces caracs pour des voyages qui vont durer 6 mois, 1 an, et on n'est pas du tout sûr d'arriver vivant. Ça m'a frappée. La valeur d'une vie humaine est quand même très sujette à caution dans cette histoire-là. On va mourir de maladie, de violence, d'abordage, de crime aussi, hein, voilà, oui. De maladie évidemment. Et en tout cas, l'arrivée n'est pas du tout assurée. Alors, je rappelle rapidement le roman de Delphine, qui se passe dans un autre univers très différent. Je sens que ça va être mouvementé, là. Hein. S'il y a un homme à la mer, vous le signalez vite, hein, d'accord. Alors, Delphine Grouès, on est au Chili, au début du XXe siècle, pendant 30 ans. On va suivre l'histoire d'une famille, la famille Silva. Donc, c'est une saga. C'est aussi des voyages, puisque les personnages, en tout cas deux d'entre eux, vont être amenés à bouger beaucoup dans le Chili, ce qui permet aussi d'aborder certains aspects de l'histoire politique du Chili, et notamment à travers certains personnages, de typographes, notamment. Voilà. Alors, je reviens vers vous, Yann, pour signaler que, si j'ai bien lu ce que j'ai lu pendant mes recherches, vous êtes parti d'une carte, en fait, une carte du Médoc, où vous découvrez que en 1627 a lieu un naufrage absolument épouvantable, historiquement incomparable, j'ai l'impression, de la flotte portugaise. Et ce que vous découvrez peu à peu, et c'est un des aspects du roman, c'est que l'accueil des habitants du Médoc n'a pas été du tout bienveillant, bien le contraire. Peut-être un mot sur cette histoire et comment, à partir d'une carte, on s'embarque pour un roman de 400 pages.
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors comment ça part? Effectivement, ça part d'une carte que je consultais dans le cadre de recherche, dans le cadre de mon travail. Je vous passe les détails. En attendant, je préparais une communication dans un colloque sur le sujet des ethnotypes, c'est-à-dire des stéréotypes attachés à une population. Et je devais faire une communication sur l'ethnotype du Médocain, voilà, qui est peut-être pas très connu à Chambéry, mais du côté de Bordeaux, si vous demandez à un Bordelais ce qu'est un Médocain, il va vous expliquer que c'est quelqu'un qui chasse le sanglier à main nue et qui rentre chez lui le soir pour se saouler avant de violer ses enfants. Donc voilà, il y a un stéréotype assez négatif et stigmatisant du Médocain, et je cherchais un peu à savoir jusqu'où ça remontait, et c'est comme ça que j'ai remonté le temps, et j'ai trouvé les travaux de Claude Masse, qui était le cartographe du roi, de Louis XIV, et qui, à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, a dû cartographier la côte entre La Rochelle et Bayonne, en gros. Et bien entendu, j'ai cherché mon village du Médoc, puisque je suis moi-même un de ces Médocains. Et à l'endroit de mon village, effectivement, il était noté quelque part une dune. Et à l'endroit de cette dune, il y avait écrit « Ici s'échoua une flotte portugaise avec un prince et d'immenses richesses, et les survivants furent massacrés par les habitants. » Et donc, à partir de là, j'ai commencé à tirer ce fil. Ça a éveillé ma curiosité. C'était un événement dont je n'avais pas entendu parler. Et donc, j'ai découvert l'histoire qui est très bien raconté d'ailleurs par des historiens dans un livre aux éditions Chandaigne, et l'histoire de ce naufrage portugais, effectivement, en 1627, une flotte portugaise qui revenait pour partie de Goa. Il y avait deux grandes nefs chargées de richesses, effectivement, alors du poivre, mais aussi des diamants, qui revenaient de Goa et qui, dans l'Atlantique, étaient escortés par des galions qui eux-mêmes revenaient de Salvador de Bahia, où les Portugais venaient de reprendre Salvador aux Hollandais. Ils ont été pris dans une immense tempête qui a duré plusieurs semaines. Ils ont été ballottés dans tout le golfe de Gascogne avant de s'échouer sur la côte entre Saint-Jean-de-Luz et le Médoc. Ceux qui ont atterri à Saint-Jean-de-Luz ont eu de la chance. Ils ont été aidés par les habitants. Ceux qui ont échoué dans le Médoc ont eu moins de chance. Et ça a été une véritable catastrophe nationale, puisque le Portugal a perdu dans cette histoire-là l'intégralité de sa flotte de guerre. Tout le poivre d'une année qui revenait de Goa, et donc c'est une très grande partie du budget du Portugal à ce moment-là, et surtout une très grande partie de sa noblesse qui était engagée dans la marine et qui était allée justement reprendre Salvador de Bahia. Donc ça a vraiment été une catastrophe nationale pour le Portugal, qui a mis des décennies à s'en remettre économiquement, et qui est un événement effectivement très peu connu. Et voilà, c'est parti comme ça.
Alors vous parlez de la noblesse, mais ce qui fait commun entre vos deux livres, d'abord, c'est que c'est une histoire vue par ce que vous appelez les oubliés de l'histoire, en fait. Une famille de péons chez vous, les arrieros, les troubadours, les ouvriers, les militants ouvriers. Chez vous, Yann Espous, ce sont les soldats qui sont engagés, et notamment le personnage de Fernando, qui est le premier qu'on rencontre sur la dune au début. Donc effectivement, cette histoire-là, elle est vue du côté de ceux qui cherchent à sortir leurs conditions aussi, hein, ce qui est également le cas chez vous. Et notamment par rapport au personnage de Valentina, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un mouvement dans votre roman où on sortait, au fond, d'une condition. Alors peut-être deux mots sur ces oubliés de l'histoire. D'abord, j'imagine que les rapports que vous avez pu lire, ceux de Ménézès, il faudra parler du personnage de Ménézès, ceux de Mélo, sont vus du côté du pouvoir. Alors comment est-ce qu'on reconstitue l'existence concrète de ces soldats, de Fernando, de Simão, de Diogo, etc. Comment est-ce qu'on essaie d'être juste?
On essaie d'être juste en essayant, en s'appuyant sur des sources, bien entendu. On se documente beaucoup sur ce que pouvait être la vie d'un soldat portugais. Fernando, c'est un jeune homme qui, à l'adolescence, est enrôlé de force pour aller servir à Goa et qui n'est pas censé en revenir, et qui va justement essayer de bousculer le destin, de reprendre son destin en main et de s'extraire effectivement de sa condition. Donc voilà, on cherche tout ça, et puis après, c'est le rôle de l'écrivain, ça va être d'essayer de se mettre à la place du personnage et voilà, et d'y insuffler aussi son propre regard sur l'histoire. Et voilà, j'avais envie de raconter effectivement à travers Fernando, à travers Sima ou Diogo, à travers Marie, qui est dans ce camp de pilleurs d'épaves, qui est réfugié là, cette jeune femme, de montrer un peu ceux que, généralement, on ne voit pas. Ceux qui sont l'espèce d'énorme masse d'inconnus qui, pourtant, font les empires, en l'occurrence.
Qui souvent meurent sans sépulture, ça aussi, fatalement. Alors, chez vous, Delphine Grouès, il y a cette dimension des oubliés de l'histoire, des modestes, des petits, des invisibles. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, j'aimerais que ça se calme là-haut, c'est la dimension généalogique, en fait. On revient beaucoup en arrière, aux ancêtres, à Evaristo, Demetrio. Il y a une dimension de transmission et de respect et d'admiration de ceux qui nous ont précédés.
Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Et là, effectivement, entre la cordillère et les tempêtes, on est accompagnés aujourd'hui. Là. Donc oui, pour moi, la transmission était effectivement l'un des leitmotifs importants. Il y a la transmission généalogique, puisque c'est une saga. Et effectivement, dans les campagnes, à la montagne, et ici, on est bien placé pour le savoir, la transmission de la sagesse des ancêtres par rapport à la montagne, par rapport au danger de la vie, à la situation sociale, était primordiale. Et j'ai voulu le montrer que cela se passe évidemment par l'enseignement des aïeux par rapport aux plus jeunes, mais aussi par une histoire qui ne se raconte pas. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de pudeurs, et c'est comment on transmettait des valeurs et un attachement à la terre sans que des mots ne soient prononcés non plus. Et puis ensuite, il y a la transmission qui, pour moi, m'a toujours fascinée dans la cordillère, qui est ce sentier de la trace. Parce que bon, vous connaissez ici aussi, il y a ce qu'on appelle dans la cordillère la trace. C'est vraiment, parfois c'est un sentier très fin, parfois c'est une ligne et parfois elle disparaît, qui est la trace de la traversée de la cordillère, qui est donc bâtie par les ancêtres, par les bêtes aussi qui passent par là, parce qu'il suffit de partir quelques mètres à gauche ou quelques mètres à droite. Là, on peut avoir une crevasse, on peut avoir des boues mouvantes, et donc il faut qu'on suive ce fil. Et donc la transmission, pour moi, a été un moyen d'expliquer cette cordillère et ensuite d'expliquer une histoire en toile de fond qui est l'histoire de l'éveil d'une conscience de protestation, d'abord dans les mines, puis à la campagne en Amérique latine.
Alors, Yann Lespoux est très lié au Médoc. Il y est né, il y a grandi. Donc, il part de ce territoire-là, en fait. Vous, vous êtes très lié au Chili. Vous l'arpentez chaque année, chaque été. Vous en revenez. Vous avez écrit une pièce de théâtre. Vous avez écrit une thèse. Tout est lié au Chili. Donc, il y a vraiment cette passion-là qui est au départ. Mais la même question, comment est-ce qu'on sort de la forme théâtrale, du documentaire, pour s'engager dans un roman?
Oui, effectivement, j'ai une passion qui est née, et donc tous les enseignants ici dans la salle, je rends hommage toujours aux profs, parce que c'est né d'un cours, une séance de cours sur le Chili, où l'enseignante nous avait fait écouter des chants protestataires chiliens du moment de Allende, et moi j'ai eu un déclic à ce moment-là. Et je me rappelle très clairement de mon stylo qui s'est posé sur la feuille, et là j'ai dit d'accord, là il y a un avant, il y a un après. Et c'est ce qui m'a poussée à continuer mes études, parce qu'au départ, je me destinais à être plutôt professeur des écoles. Et j'ai continué à étudier pour le Chili, pour avoir cette excuse de passer mon temps à travailler cette histoire-là. Et ensuite, je suis partie pour ma thèse là-bas. Et c'est là où j'ai travaillé sur le sujet de la poésie populaire qu'on retrouve dans le roman. Donc les écrits des troubadours, des poètes. J'ai parcouru le pays pour recueillir les contes et légendes. Et donc là, j'allais voir les ancêtres, justement, dans les campagnes, où on se retrouvait autour du feu, du foyer, dans la maison, et les soirées se passaient comme nous, on pouvait l'imaginer avant aussi, autour d'un feu, avec la dame, généralement la plus âgée de la maison, qui racontait des contes qui étaient hérités de l'âge médiéval espagnol, quand même. Enfin, on voyait la tradition orale. Donc tout ça est né d'ici. Et après, j'ai vite voulu, parce que c'est aussi pour ça que je pars dans la cordillère chaque année, je suis vraiment éprise de liberté, mais de la liberté la plus absolue. Et c'est vrai que les écrits académiques ne nous la permettent pas, cette liberté. Et pour cause, parce qu'on doit être objectif. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée d'abord dans une pièce de théâtre, parce qu'il y avait un metteur en scène qui m'avait proposé de l'adapter, donc je l'ai écrite. Et ensuite dans le roman, parce que je te rejoins là-dessus, c'est le fait de créer des personnages, de créer des voix, nous permet de transmettre bien plus fortement que dans un écrit académique ou dans un essai, en plus du fait que c'est une joie d'écrire et de se lancer dans l'imaginaire, mais le fait de passer par les sensations, la sensibilité pour faire connaître. Donc moi j'avais quelques enjeux, j'avais l'enjeu évidemment de faire connaître ce qu'était le Chili, une famille paysanne à ce moment-là, mais aussi de faire connaître la cordillère et donc de la faire sentir à ceux qui ne la connaissent pas. Et donc c'est là où la narration, l'écriture de fiction nous permet, grâce au rythme, aux sonorités, à la poésie, peut-être de transmettre un paysage.
Bienvenue. Donc,
voilà. Un randonneur qui arrive.
Il a affronté la tempête pour une
là, c'est magnifique. Très bien. Je vous offre le roman après, hein, pas de problème. D'accord. Donc voilà, donc c'est cette narration littéraire et le réalisme magique qui est très latino-américain qui nous permet aussi d'aller vagabonder dans des mondes qui ne sont pas des mondes de la réalité, mais plutôt la féerie un peu évanescente.
Je reviens sur cette histoire de transmission. Elle se fait aussi à travers des figures de protecteurs. Je pense à celui qui va initier Esteban à la poésie. Il y a le père Bichente aussi, qui va être un transmetteur de culture. Il y a cette figure-là qui est vraiment importante, et ça me permettra de parler une figure aussi qui est importante chez vous deux, c'est les duos fraternels, les duos d'entraide, de solidarité. Alors, peut-être deux mots sur ces personnages qui transmettent.
Oui, effectivement, vous parliez de des grands-oncles d'abord, donc, et ensuite du curé en fait. Et donc effectivement, il y a deux duos, mais sont vraiment des personnages qui existaient à ce moment-là. Il y en a un qui est le grand-oncle Gaucho. Alors dans la région dans laquelle on se place, ça se dit un arriero. C'est la même chose. Arear en espagnol, c'est rassembler le bétail. Et donc il y a ce grand-oncle bagarreur qui est l'idole de tous les jeunes de la famille, qui initie l'un d'entre eux justement à la cordillère, et à la fois à cette cordillère magnifique mais très difficile, et puis surtout aux guerres qu'il y a là-haut entre les gauchos du côté argentin et ceux du Chili, parce que c'était le vol des vaches en fait. Et souvent entre les patrons des grandes estancias, il y avait un deal qui était fait avec les bandits de la région qui disaient bon, on te paye, tu peux te servir parfois dans notre bétail, mais tu nous protèges des autres que nous on ne contrôle pas en fait. Donc ça c'est ce grand oncle là, et j'aime beaucoup la vénération d'un des jeunes garçons pour cet oncle, et puis du patriarche de la famille Cecilio, qui lui, de prime abord, mais ça on pourra reparler de lui, semble un petit peu plus trouillard, mais en fait qui est vénéré par ce grand oncle aussi, qui où en fait il y a un courage qui est caché. Ensuite il y a le troubadour aveugle, et donc c'est vrai qu'au Chili, on avait, en Amérique latine, on avait les mêmes traditions qu'en France avant, où il y avait c'était des petits garçons à ce moment-là qui accompagnaient les aveugles et qui battaient les campagnes, et ils gagnaient leur croûte en vendant des poèmes, en récitant des poèmes sur les places du village. Et c'est de là que Esteban, qui est l'un des personnages principaux, est initié à cet art de la rime et à une manière de voir la vie. C'est aussi pour ça que je voulais mettre en avant cette figure de l'aveugle, où en fait, dès qu'il y a des sensations, des sens à vif, généralement c'est qu'il y a un sens qui pouvait manquer. Et là, en fait, Esteban voit la vie et comprend la vie grâce à cet aveugle sage qui lui enseigne tout ce qu'il sait. Et après, il y a ce curé, où là, je me suis pas mal amusée avec cette figure du prêtre, un prêtre révolutionnaire comme on pouvait en avoir en Amérique latine, qui est envoyé à la campagne parce qu'il parlait un peu trop fortement dans les villes. Donc sa hiérarchie l'envoie dans la campagne, et en fait, son travail va vraiment être de soutenir d'abord Esteban pour qu'il puisse apprendre les lettres et ensuite devenir typographe et éditeur. Et la petite fille, où là, à la fin du roman, une petite fille naît qui a énormément de talent, et c'est le prêtre aussi qui va l'accompagner non seulement à avoir une éducation, mais ensuite à trouver une bourse pour qu'elle aille étudier et devenir une femme médecin. Et ça, on l'apprend. Bon, je vous révèle tout du roman, ça va pas. Mais ça, on l'apprend plus. C'est pas grave, il y a d'autres choses, j'y gâche rien. On l'apprend plutôt vers la fin, mais c'est aussi une figure féminine qui grandit avec le siècle, parce que c'est à ce moment-là que les premières femmes pouvaient avoir accès à l'éducation.
Alors vous parlez de les gauchos argentins, chiliens, vol de bétail, ça me fait penser à au Médoc. J'ai l'impression de lire deux westerns aussi, quelque part. Et je trouve votre Médoc, on dirait le Far West.
Eh ben, alors ça tombe bien, parce que c'est comme ça que je l'ai pensé, en fait.
Le cabaret de Louis.
Oui, oui, oui.
C'est le saloon.
C'est le saloon, ouais. Ouais. C'est comme ça que je l'ai pensé, parce que, peut-être paradoxalement ou pas, je ne sais pas trop, tout ce qui est Goa, Salvador de Bahia, qui sont des endroits que je ne connaissais pas du tout. J'ai dû beaucoup me documenter, je connaissais quand même beaucoup mieux le Médoc. Alors peut-être parce que j'avais cette connaissance plus intime du Médoc, je me suis senti plus libre de laisser aller mon imagination, et je me suis dit que ce Médoc, je voulais vraiment, la partie médocine, je voulais que ça soit un western. Alors effectivement, le bazar tripot de Louis, là, dans ce camp de pilleurs d'épaves, c'est le saloon. Et puis au lieu d'avoir des vaches, ben, on a des moutons, hein, puisque voilà, on est dans les Landes, on a des moutons, et au lieu d'avoir des colts, on a des haches. Mais le résultat est plus ou moins le même.
On trucide allègrement.
Ce sont des choses qui arrivent. Et Claude Mas le disait d'ailleurs très très bien, ce cartographe. Donc ça c'est établi. Hein. Il expliquait que les Médocains étaient plus barbares que les pires tartares. Et qu'il ne fallait jamais leur tourner le dos, surtout quand ils avaient une hache.
Alors, je crains que votre roman n'améliore pas la réputation des Médocains.
Oui, alors ce qui est plutôt bien, parce qu'on on souffre un peu du surtourisme.
Il faut éliminer quelques épaves. Alors plus sérieusement, moi j'ai été frappée. Alors effectivement, Goa, Bahia, je ne connaissais pas bien cette histoire. Je me suis fait des images parce que votre roman est très visuel. Mais le Médoc m'a absolument fascinée par son côté extrêmement étrange, extrêmement exotique, singulier. En plus, c'est ce pays qui s'enfonce dans le sable. Je trouvais ça vraiment un territoire tout à fait fascinant.
Oui, alors c'était aussi ça qui m'intéressait au départ. C'était l'idée d'endroits qui sont en train de littéralement sombrer. L'Empire portugais, à ce moment-là, est en train de sombrer. Ils ne le savent pas encore très bien. Ils commencent à le sentir, mais ils sont en train de sombrer. Goa est en train de sombrer aussi. D'ailleurs, au siècle suivant, on va la déménager, on va déménager la ville. Et le Médoc de cette époque-là sombre aussi d'une autre manière, hein, mais surtout sous les assauts du sable, puisque en fait, le Médoc, c'est la pointe de ce qu'on appelle à l'époque le désert landais. Et le désert landais, c'est-à-dire que c'est des dunes mouvantes qui sont portées par le vent et qui ensevelissent tout sur leur passage, des villages entiers, des bois. Et on ne peut pas les arrêter. Et l'hiver, quand il fait ce temps-là, à peu près, tout ça devient très marécageux. Il y a des sables mouvants qui apparaissent. C'est des endroits très, très inaccessibles qui, à l'époque, ont vraiment une très, très mauvaise réputation parce que c'est difficile d'accès. La difficulté du pays rend les gens qui y habitent rudes, eux aussi. Et ben voilà, ils ont besoin de manger, hein, à un moment. Et quand, voilà, quand on meurt de faim, quand on meurt de paludisme au beau jour, ben voilà, on fait ce qu'on peut pour survivre. Et donc, c'est vraiment une contrée du royaume qui est extrêmement déshéritée, délaissée. Vu comme un endroit sauvage, très superstitieux aussi. À l'époque, hein, vers le XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a même des scientifiques, hein, qui développent des théories sur les Landes, hein, en règle générale, sur ce désert landais. Et notamment, il y a des théories alors, remises en cause depuis, je tiens à le préciser, selon laquelle ces bergers landais, là, sur leurs échasses, seraient des quadrumanes et donc potentiellement le chaînon manquant entre le singe et l'être humain. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vision qui est portée sur cet endroit-là, qui est vraiment un lieu de sauvagerie, d'étrangeté, de sauvagerie. Et c'était ça aussi qui était intéressant. C'est-à-dire à un moment, partir d'un roman qui se déroule dans le monde entier. Et que la sauvagerie finalement elle soit à nos portes et pas de l'autre côté. Et d'ailleurs on a un personnage qui s'appelle Ignacio qui est un indien Tupinamba et qui lui quand il va débarquer dans le Médoc il va se demander où il est tombé, hein.
Et les Médocains se demandaient d'où il sortait.
Et les Médocains se demandent d'où vient lui, mais,
Alors je reviens sur les duos Delphine avec la fratrie, les deux frères Esteban et Joaquin qui en fait le thème de l'amitié dans les deux romans est quand même extrêmement important. Ce sont deux frères qui vont vivre des destins très différents, en même temps, toujours être côte à côte, toujours se retrouver. Je trouve cette figure très belle, je trouve.
Effectivement, j'étais partie sur un duo de frères. Et en fait, pour tout vous dire, au départ, mon idée était plutôt que Esteban soit le personnage principal. Et en fait, ça, c'est la magie de l'écriture. C'est que le deuxième, donc Joaquin, qui est juste un tout petit peu plus jeune que lui, a pris le dessus. Et en fait, c'est un duo presque gémellaire en fait, entre les deux. Et je me suis énormément attachée à Joaquin, donc il a pris de l'ampleur. Et parce qu'il était le plus rebelle des deux, ben voilà, il a pris aussi la plume et il s'est établi. Et j'ai travaillé un peu sur cette complémentarité, parce que souvent on dit qu'ils sont tous différents, donc ils ne s'entendent pas. Et là, en fait, ils sont très liés dès leur plus tendre enfance, parce que mais c'est dans les premières pages, donc ça, je peux vous le dire, que le deuxième est malade enfant. Et donc, il y a un lien qui se crée entre les deux qui est viscéral. Et même chose sans mots, avec des gestes. Et en fait, dans le roman, j'ai beaucoup travaillé aussi sur... c'est quand même un roman d'apprentissage, puisqu'on les suit, ces deux enfants, jusqu'à qu'ils soient adultes et un petit peu après. C'est au début, on a le poète idéaliste d'un côté, on a le batailleur rebelle de l'autre, et la vie se charge de leur enseigner des leçons, où en fait, le batailleur va se révéler peut-être plus rebelle que l'autre, et l'autre, en comprenant son père, en comprenant la vie, va devenir beaucoup plus tendre. Et donc, ils se rejoignent, c'est un petit peu des fils qui s'entrelacent. Après, c'est vrai que la solidarité, l'amitié, est toujours très forte là-haut dans la cordillère, parce que sans solidarité, on ne survit pas, en fait. Et c'est ce que j'ai appris, moi, du côté des gauchos, parce que, comme vous le rappeliez, chaque année, je parcours la cordillère à cheval avec un gaucho. Et donc, j'ai traversé le pays comme ça, les 4500 km du Chili, du désert d'Atacama et puis à la Terre de Feu. Et donc, je changeais de gaucho parce qu'eux, ils ne changent pas de région. Donc, à chaque fois, c'était les gauchos qui se passaient le message pour essayer de m'en trouver un qui serait d'accord de partir avec moi pour traverser la cordillère dans un sens prédéfini. Et en fait, là, lorsque parfois on se retrouve avec deux gauchos là-haut, en fait, il y a une communication qui passe et on ne se parle pas, mais on est solidaire, mais jusqu'au bout, en fait. Et il n'y en a pas un qui partirait s'il y en a un autre qui manque à l'appel. Et cette solidarité, alors qu'on se connaît très peu, où on met sa vie en péril pour l'autre alors qu'on ne le connaît pas forcément, c'est ce lien que crée la haute montagne, que crée la nature quand la nature est vraiment toute puissante.
Alors, effectivement, deux romans d'apprentissage en un, si j'ose dire, et chacun tient une fonction assez particulière. Esteban, il va aller à Valparaiso, du coup, il va révéler la vie intellectuelle et ouvrière, militante, puisqu'il va rencontrer un personnage, j'aimerais qu'on parle, c'est Luis Emilio Recabarren. Et donc, cet aspect-là, alors que Joaquin, qui va suivre le petit patron, lui aussi, qui est un personnage assez intéressant, lui va révéler les mines, notamment la condition ouvrière. Donc finalement, ce sont deux observateurs de la société à des endroits différents, mais qui au fond se rejoignent.
Oui, effectivement, les deux doivent partir contraints et forcés. Et donc Esteban à Valparaiso, et c'est vrai que je tenais à mettre Valparaiso à l'honneur, parce qu'à ce moment-là, au début du XXe siècle, c'était le haut lieu des anarchistes et des révolutionnaires. Au moment où il n'y avait pas encore le canal de Panama, tout le monde passait par Valparaiso, notamment les pourchassés en Europe. Et donc, il y avait une émulation à Valparaiso qui était absolument impressionnante. Et c'était l'âge d'or de cette ville qui, malheureusement, depuis le canal de Panama, sombre. Et donc, Recabarren, effectivement, c'est un personnage qui apparaît dans un chapitre. Et c'est le seul personnage historique, le vrai personnage. Bon, je fais une petite mention à Allende un moment, mais c'est le seul vrai personnage qui apparaît dans le roman. Et c'est vraiment une apparition, parce qu'une entrée et une sortie dans l'imprimerie. C'est un personnage, moi, qui m'avait beaucoup marqué, parce que c'est un homme qui a consacré toute sa vie à la cause des plus opprimés. Il a été enfermé plusieurs fois en prison. Il est allé créer le Parti communiste en Argentine. Il est revenu ensuite au Chili le créer. Et puis ensuite, il est expulsé de son propre parti par les plus jeunes qui voulaient être plus radicaux. Et c'est pour moi un petit peu le symbole, et il y en a eu beaucoup des combattants comme ça, qui à la fin en fait va subir un sort assez difficile, parce qu'il n'arrive plus à intégrer toute la misère qu'il est en train de voir. Donc le moment où il rencontre mon personnage d'Esteban, c'est aussi le moment où Esteban lui lutte pour un accident de la vie, pour essayer de surmonter une tragédie qu'il a vécue. Et c'est pour ça que la révolte populaire qu'il est en train de voir émerger, et sa propre résilience où il essaye de s'en sortir, et puis sa révolte par rapport à une vie qu'il a laissé tomber et qu'il a trahi, se rejoignent. Et Joaquin, qui est le plus guerrier, le plus rebelle, est obligé de suivre le fils du patron qui va explorer le Grand Nord pour voir si les 20 investissements dans les mines valent le coup. Lui découvre l'horreur des mines de salpêtre. Donc le salpêtre, c'est donc le salpêtre qu'on voyait en Europe comme engrais et puis surtout comme poudre à canon en Amérique latine. Et donc il monte dans le nord et là il voit un monde qu'il ne connaissait pas. Et il se demande s'il faut quand même s'engager politiquement ou pas, parce qu'il craint la folie des hommes qui toujours voudront le pouvoir et il ne fait pas confiance aux partis politiques. Donc lui, il est libre jusque dans le fait qu'il ne veuille pas s'affilier à un parti. Et il explore, effectivement, c'est un observateur. Et il accompagne son patron à travers le désert et voit un autre Chili. Avec toujours cette envie de retrouver sa cordillère natale, de retrouver ses monts à lui, et on le sent perdu dès lors qu'il n'a plus sa trace, en fait.
Alors, puisque vous parliez des personnages qui changent au fil de l'écriture, il y a le personnage de Marie, dont j'aimerais qu'on parle, puisque vous dites volontiers qu'elle est devenue petit à petit, à votre insu, le personnage principal du roman.
Oui, parce qu'au départ, comme je pars de ce naufrage, j'avais besoin d'un personnage qui échoue sur la côte du Médoc. Et donc, le premier personnage que j'ai imaginé, c'était Fernando. Donc, ce soldat enrôlé de force. Et puis, il me fallait quelqu'un dans le Médoc pour le recueillir. Et donc, j'ai commencé à imaginer ce personnage de Marie, qui est une jeune femme qui a essayé de partir du Médoc pour aller à Bordeaux, pour essayer de trouver une meilleure vie. Et ça s'est mal passé. On va passer les détails, mais ça ne se passe pas très très bien.
Elle
est obligée de revenir et de s'enfoncer encore plus, de s'éloigner encore plus, et donc d'aller entre les étangs et les marais et l'océan, donc dans ces dunes mouvantes, où son oncle règne sur ce village de pilleurs d'épaves, de résiniers qui sont là. Et au fur et à mesure, effectivement, je me suis aperçu que c'était elle, le personnage central, en réalité. Alors pourquoi, je ne sais pas trop, hein, peut-être parce que c'est le Médoc et que voilà, c'est chez moi et c'est l'endroit où je me sens bien. Mais voilà, elle s'est imposée petit à petit. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quoi. C'est, il y a des moments, les personnages nous échappent un peu. Ils prennent une certaine autonomie, du moins on a l'impression, ça vient toujours que de nous, mais ils prennent cette espèce d'autonomie, et ça a été le cas avec Marie assez vite. Voilà, j'avais envie que ça soit elle, que tout tourne autour d'elle, parce que c'est peut-être finalement celle qui incarne le mieux au milieu de tous cette envie commune qu'ils ont de se forger leur propre destin et de s'extraire de la condition qui leur est assignée dès leur naissance.
D'être au bon endroit au bon moment,
voilà.
Comme répète souvent Fernando.
Comme qui a vraiment l'impression d'être toujours au mauvais endroit, au
Alors,
mauvais moment.
Si le personnage de Reka Barren n'apparaît que dans un chapitre dans votre roman, par contre, il y a un personnage qui est tout le temps là, c'est Menezes, dans le manuel. Alors celui-là, moi, il m'a enchanté, il m'a fait rire. Je l'ai trouvé. C'est un vrai personnage romanesque pour le coup.
Oui, et c'est un personnage réel. Donc c'était quelque chose d'intéressant avec Menezes. Il fait partie des déclics au-delà de cette histoire de naufrage qui m'ont donné envie d'écrire ce roman, parce que c'est un personnage effectivement éminemment romanesque. Alors Manuel de Menezes, il est romanesque en plus parce qu'on a peu de renseignements sur lui. C'est un personnage qui a laissé des traces. Il a été cosmographe du roi. Il a donc été capitaine général de la flotte du Portugal, mais on a peu d'informations biographiques à son sujet, on ne sait même pas exactement où il est né. Comme le Portugal est un tout petit pays, en plus, il n'y a pas énorme, tant que ça de famille, donc les noms de famille des Menezes, il y en a des pelletés, et donc c'est difficile de reconstituer vraiment l'arbre généalogique. Et par contre, on a des récits qui nous parlent de Menezes. Dans quelques endroits, on sait que on connaît son physique, par exemple, qui était particulier, puisque c'était un personnage qui était blond. On l'appelait le Flamand,
ce qui n'était
pas très
mince,
courant.
Blond, dans un
mince,
manteau noir.
Voilà, c'était pas vraiment l'image qu'on a du cliché du portugais moyen. Et Menezes, par ailleurs, il incarne le point d'honneur portugais. Voilà, c'est le gentilhomme portugais qui protège avant tout son honneur. Et un des premiers chapitres raconte cet épisode. On est dans le canal du Mozambique, il faut imaginer. Ménécès est sur une carac, donc une nef, un bateau immense, immanœuvrable, littéralement, vraiment. C'est, on ne sait pas comment il faisait pour arriver jusqu'à Goa. Et il a perdu les deux autres nefs en route. Il a très peu de canons, bien entendu, ce n'est pas un bateau de guerre. Et il croise une flotte anglaise. Et là, il y a 5 bateaux anglais qui sont là. Et de manière exceptionnelle, à ce moment-là, le Portugal et l'Espagne et l'Angleterre ne sont pas en guerre. Et ces Anglais, donc, demandent tout simplement à Ménécès, au bateau sur lequel il est, qui ils sont et où ils vont. Et Ménécès est tellement heurté de voir des Anglais sur la route des Indes, qui appartient aux Portugais, qui protègent vraiment jalousement depuis longtemps, il les insulte, plutôt que de leur répondre. Il les insulte. Alors les Portugais lui font, les Anglais lui font remarquer qu'ils sont plus nombreux et que normalement ça devrait l'inciter à la politesse. Et il les insulte à nouveau, il leur fait tirer dessus. Donc à ce moment-là, ils perdent un petit peu de leur flegme et ils disent « bon, maintenant, il faut que ça cesse ». Ils retirent dessus et ils tuent le capitaine, le commandant de la flotte anglaise. Et là, les Anglais disent « bon, bah, on n'a pas le choix, on va vous couler ». Et on pourrait se dire « bon, bah, là, ils vont se calmer ». Pas du tout. La nuit tombe, ils pourraient s'enfuir. Il fait allumer tous les fanaux sur le bateau pour être sûr que les Anglais le voient, pour leur montrer qu'il n'a pas peur d'eux. Donc, résultat, il le coule. Ça, c'est... Il le coule, il perd donc le bateau dans lequel il y a tout l'or qui devait servir à payer les fonctionnaires du roi du Portugal à Goa. Donc le navire, les marchandises des commerçants qui étaient dedans, accessoirement quelques centaines d'hommes. Et il devient un héros national parce qu'il a tenu tête aux Anglais. Il a défendu l'honneur du Portugal. Voilà, donc c'est un personnage comme ça, on se dit... c'est quand même un personnage de roman, avant tout. Et comme en plus on sait peu de choses sur lui, bah ça permet pour, en tant qu'écrivain, de s'insérer dans les blancs un peu de l'histoire et de développer ce personnage-là.
Effectivement, c'est un personnage qui a l'air, qui est totalement monolithique, rigide, apparemment étranger à toute émotion. Mais c'est pas si simple que ça, parce que c'est plus complet. D'abord, il aime la poésie, ce qui le sauve quand même. Voilà. Et d'ailleurs, un moment extrêmement critique de l'aventure, il se met à disserter sur le style de Lope de Vega. Je trouve ça, cette scène hilarante. Et il développe avec Diego et Ignacio une relation un peu particulière, j'ai trouvé, qui n'est pas de l'amitié, parce que ça ne peut pas être possible, mais quand même, voilà, qui s'assouplit quelque part.
Oui, qui s'assouplit, alors et qui est un peu ambigu, c'est-à-dire que c'est
il a besoin d'eux.
À la fois, il a besoin d'eux et on a l'impression qu'il les prend sous son aile, mais on ne sait pas trop s'il commence à avoir une relation un peu presque de père à fils ou de propriétaire à animal domestique. Mais vraiment, il y a de ça, on ne sait pas trop. Hein. Mais en tout cas, il les prend sous son aile et voilà, il se révèle un peu plus complexe que ce personnage monolithique engoncé dans son manteau noir sur le château de Poupe.
Et j'ai trouvé bateau. De la même façon, le personnage du petit patron, le fils du patron, finalement s'avère lui aussi plus complexe qu'on pourrait le croire. C'est pas seulement la lutte des classes.
Oui, effectivement, c'est un personnage qui commence où on a vraiment envie de lui envoyer quelques paires de gifles, parce que c'est le prototype au départ du fils aîné du patron qui va hériter, qui n'attend qu'une chose, c'est d'hériter de la fortune et du père, et de la dépenser à Santiago, en fait, sans aucun lien avec la terre, et en trouvant que son père est peut-être un peu trop proche des paysans et devient un peu paysan à la fin aussi. Et en fait, il m'a servi au départ parce que, pour ceux qui ont lu le livre, ses premières peurs dans la cordillère, j'avoue que j'y ai retranscrit mes premières observations sur la première traversée de cordillère, où en fait, il se demande un petit peu ce qu'il fait là et s'il va réussir à rentrer. Ensuite, moi j'ai changé, lui aussi, dans l'histoire. Où, c'est au moment de ce voyage dans le Nord qu'il se transforme parce qu'il a peur. Il a peur et il est accompagné de son péon qui est comme son servant en fait, mais il se rend compte qu'il va être dépendant de lui et va commencer à admirer le courage de ces gens de la terre qui savent se repérer avec le soleil, qui savent s'y prendre avec les chevaux. Et en fait, même s'il ne lui dira jamais, parce qu'il ne peut pas le dire, il a un petit peu une dette de reconnaissance quand même. Et c'est un petit peu la leçon que souhaitait lui enseigner son père aussi, en le laissant partir, enfin l'obligeant à partir avec les gauchos. Et ça, c'est aussi une vision que je voulais mettre dans le roman, c'est que les personnages ne sont jamais tels qu'on les imagine vraiment. Et il y a toujours une complexité plus forte. Et surtout là, dans un roman où il y a une tension sociale quand même qui est en sous-latence, je ne voulais pas tomber dans le cliché de le patron il est méchant et le péon il est gentil. Et en fait, les bassesses humaines, les faiblesses humaines se retrouvent partout et au moment où on l'attend le moins. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu le mettre dans le destin de certains des personnages. Et j'ai effectivement donné une chance à ce fils du patron. Au début, j'avais un petit peu du mal à le supporter. Et en fait, je lui ai quand même donné une chance de changer un petit peu, pas complètement non plus. Et c'est comme en sens inverse, le patriarche, donc Cecilio, le père des deux garçons, où on a l'impression qu'il est un peu trop sensible pour être à la place à laquelle il est comme patriarche de la famille, mais où on se rend compte au fur et à mesure du roman que c'est lui le plus courageux parmi les hommes, parce que parmi les femmes, il a sa femme qui est, elle, la figure de la force, de la sagesse, et puis que tout le monde respecte.
C'est Louisa. Hein ?
C'est Louisa, oui.
Qui m'a fait penser aussi un peu... Il y a une sorcière aussi chez vous. Oui, hein, puisque ouais. Louisa, elle connaît les plantes, elle connaît des choses secrètes. Et il y a Hélène, la sorcière, dans votre western.
Oui, Hélène, qui est un personnage important et qui joue de cette image de sorcière pour se protéger, en fait. Et dans un monde qui est très superstitieux, le fait d'être une sorcière... Ça la protège un peu de ces gens autour d'elle là, qui sont des fréquentations assez dangereuses. Et voilà. D'ailleurs, elle explique hein, plusieurs fois qu'elle leur fait jamais que des décoctions à base de résine, mais que de toute façon, comme c'est la sorcière, ça marche. Ouais.
Alors, vous parlez de superstition. Vous avez parlé de l'importance de la religion aussi dans le Chili de cette époque-là, puis sans doute encore aujourd'hui. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le poids de l'Inquisition. Je ne pensais pas qu'à Goa, l'Inquisition pouvait être aussi puissante, d'aller si loin, chercher à asseoir l'autorité extrêmement coercitive de l'Église catholique.
Ah oui, l'Inquisition de Goa, elle est connue pour être vraiment redoutable. Alors, elle est redoutable... D'autant plus qu'elle est vraiment au service d'une caste. Donc, en fait, on finit dans les geôles de l'Inquisition, alors éventuellement parce qu'on est un païen, et notamment si on est juif, parce qu'on va aller, on va chercher. Les juifs ont été expulsés du Portugal, donc il y a beaucoup de marchands juifs qui sont installés à Goa et ils ne sont pas très, très bien vus. Et aussi, on a affaire à l'Inquisition parce qu'on est dénoncé par les autres. Parce que Goa, à cette époque-là, c'est vraiment un monde assez fascinant. C'est une espèce de copie conforme de Lisbonne, y compris dans le plan de la ville. Mais c'est Lisbonne loin du Portugal. C'est-à-dire qu'on peut se laisser aller d'une certaine manière. Donc, on peut se laisser aller à tout un tas de choses. Hein. On se dévergonde à Goa quand on est un Portugais à Goa. Et à Goa aussi, il y a des luttes de pouvoir entre différents clans. Et chacun va chercher à s'appuyer sur l'Inquisition. Il y a tout un jeu de dénonciation. Et donc, on peut finir du jour au lendemain dans une geôle de l'Inquisition. Et quand on arrive dans les mains de l'Inquisition... On ne sait pas trop comment on va en sortir. Ça peut se finir sur un bûcher. Donc, c'est assez, assez dangereux. Mais, et donc, l'Inquisition, oui, elle est très, très puissante à ce moment-là. Et elle règne vraiment d'une main de fer sur Goa. Et donc, c'est aussi tous les affrontements, toutes les luttes de pouvoir qu'il peut y avoir aussi entre le pouvoir religieux et le pouvoir laïque. Qui se joue là-bas.
Alors, peut-être dernier aspect des deux romans qu'ils ont en commun, c'est évidemment la violence et la mort, puisqu'il y a des morts cruelles dans votre texte, Delphine. On ne dira pas lesquelles, puisque peut-être des gens ici n'ont pas lu le texte. Oui, c'est un monde dangereux également. Hein, voilà. Chez vous, alors n'en parlons pas, parce que quand on embarque sur une carac, je le disais tout à l'heure en commençant, on ne sait pas si on va survivre, on ne sait pas si on va arriver au bout du voyage. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a... Il y a un rapport à la mort très singulier dans cette époque-là.
Oui, un rapport à la mort et un rapport à la vie hein, qui sont effectivement singuliers. Partir sur une carac pour Goa, c'est partir sur un bateau qui ferait entre 50 et 60 mètres de long, qui a 5 ou 6 ponts, qui est chargé de marchandises, qui est chargé de soldats aussi, puisqu'il faut envoyer des soldats constamment à Goa, parce qu'il faut alimenter la garnison là-bas. Et ces soldats, ils ne sont pas censés en revenir, d'ailleurs, hein, de toute façon. Et c'est des bateaux sur lesquels il peut y avoir jusqu'à 1000 personnes. Donc vous imaginez, 1000 personnes sur un bateau d'une cinquantaine de mètres qui sont entassées là et qui vont faire un voyage sans escale de 6 mois. Donc à l'arrivée, s'ils arrivent, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a en moyenne un tiers des personnes à bord qui sont mortes. Donc, effectivement, quand on embarque pour Goa, on ne sait pas exactement si on va arriver, mais c'est un rapport à la mort qui est finalement assez naturel, parce que déjà, il y a la croyance, il y a la religion qui fait qu'on l'accepte sans doute plus facilement. Et puis, de toute façon, mourir là, ou mourir au Portugal dans la pauvreté, finalement, autant mourir en essayant autre chose, quoi, peut-être. Hein. Mais voilà, enfin, le rapport à la mort est effectivement très, très différent à ce moment-là. On peut mourir, on peut partir sur une carac et mourir dessus ou pas, et arriver à faire quelque chose de l'autre côté du monde, comme on peut mourir d'une bête épidémie de choléra au Portugal. Donc finalement, on peut essayer, quoi.
Finalement, ce personnage de Fernando, on n'en a pas assez parlé, je trouve. Il faudrait s'arrêter un peu sur lui, parce qu'il était là en 1616,
oui.
Pendant le fameux naufrage, où il a assisté à quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Je ne vais pas dire quoi. Voilà. Et en fait, on le retrouve en 27. Ça veut dire que ce type, il a survécu 11 ans.
Voilà.
Il a de la chance.
Il a de la chance, et il y a mis un peu du sien aussi pour s'en sortir. C'est un destin comme on en trouve hein, à cette époque-là. Ces soldats portugais, en fait, ils sont recrutés parfois de force. C'est son cas. Hein. C'est-à-dire que comme le Portugal est un tout petit pays avec une démographie assez faible, à un moment, on n'a plus assez d'hommes à envoyer à Goa. Donc, on va commencer à envoyer à peu près n'importe qui. On va chercher des gens à la sortie des prisons, à la sortie des hôpitaux. On envoie des enfants qui ont 12 ans comme soldats. Ils doivent servir là-bas un certain nombre d'années. Et après, ils sont censés rester à Goa et y mourir, finalement. Et donc, certains d'entre eux, et ça va être le cas de Fernando, vont quitter Goa. Ce qui n'est pas simple, d'ailleurs, hein, quitter Goa pour se mettre au service des princes hindous ou musulmans des alentours, de tous les royaumes qu'il y a autour. Ils vont devenir des mercenaires, parfois des renégats, hein, c'est-à-dire qu'ils vont se convertir et essayer de survivre là-bas. C'est ce que certains historiens appellent après l'empire fantôme, c'est-à-dire qu'il y aurait un empire portugais officiel, Goa et les comptoirs un peu partout en Asie, et tout un tas d'endroits où les Portugais sont installés, mais pas officiellement, ce sont des gens qui sont à la marge, et c'est l'Empire fantôme, parce qu'en fait, eux aussi, ils contribuent à l'enrichissement du Portugal à travers leurs actions. Et Fernando, il va tenter cette aventure-là, et puis après, il va avoir le désir de revenir. Et donc, revenir, bah, c'est pas simple non plus, parce que comme je vous le disais, on n'est pas censé revenir. Et la place sur un bateau de retour, sur une carac de retour, elle est extrêmement chère, puisque les places sont réservées pour les marchandises qu'on ramène d'Asie par des commerçants qui paient très très cher les places. Donc, pour revenir sur un bateau, il faut normalement être très riche ou être forcé d'embarquer une nouvelle fois.
Il y a, je crois que c'est Simao, à un moment donné, qui parle à Fernando et qui lui dit faudra bien qu'on rentre au Portugal. Et l'autre lui répond, pourquoi faire ?
Oui, pourquoi faire, finalement ? Qu'est-ce que le destin a à m'offrir là-bas ? Si je reviens toujours en tant que soldat, je n'aurai rien d'autre. Donc, il va falloir qu'il trouve un moyen, et pour lui, hein, je dévoile rien, mais ça va être d'essayer de mettre la main sur les diamants qui sont embarqués sur ces caracs. Élément important du western, hein, ces diamants qui ont vraiment existé, qu'on n'a jamais retrouvés, je vous le dis, hein, au passage. Mais,
Pas la peine d'aller chercher dans le Médoc. Alors peut-être, on a encore 2-3 minutes, sur la construction du texte. Alors, tous les deux, vous pratiquez des constructions en alternance entre les différents personnages. Moi, il y a ce texte en italique qui m'a beaucoup intriguée, cette espèce de voix qui parle à la première personne. Je me suis demandé, alors peut-être, comment est-ce qu'elle est née d'abord cette voix et quelle était sa fonction ?
Oui, il y a une voix, alors on sait que c'est une voix féminine parce qu'avec la langue française, on a les accords. Donc on sait que c'est une voix féminine. Elle est née du fait que j'avais besoin, moi, de pouvoir intégrer dans le récit un rythme différent. Et donc, toute la narration est à la troisième personne, sauf ces incises. Il doit y avoir peut-être 10 moments où ce sont des courts moments en italique avec une voix narrative à la première personne et avec un style complètement différent qui est de l'ordre de la poésie ou du conte. Et j'avais besoin de rythmer différemment, j'avais besoin parfois tout simplement d'expliquer des choses qui ne pouvaient pas arriver dans une narration à la troisième personne. Alors, on me demande souvent qui est cette voix. Après, je laisse les lecteurs et lectrices investiguer, mais c'est effectivement l'un des personnages qui parle. Et on ne sait jamais, parce que là, je joue beaucoup avec le réalisme magique aussi, si c'est un enfant, si c'est une personne très âgée, parce qu'on a l'impression qu'il y a une expérience très forte derrière. Donc, je joue un petit peu avec cela. Et puis, je joue avec la langue aussi. Et par exemple, justement, là, il pleut. Il y a des moments où, parfois, je me focalise sur des petits détails, et donc comme une goutte de pluie qui tombe dans le désert, par exemple. Et ça, on ne le fait pas dans un récit à troisième personne où on est embarqué dans une intrigue. Ça nous permet de sortir du temps du récit et puis de donner une différente respiration. Mais ce n'était pas une volonté de ma part au départ. Elle est arrivée après quelques chapitres où, en fait, cette première voix s'est imposée parce qu'elle ouvre le roman et j'avais besoin de cette voix en fait pour montrer que les temps ne sont pas si linéaires et c'est souvent un temps circulaire. Donc elle ouvre et elle ferme le roman. Après, ceux et celles qui arrivent à voir qui c'est très bien, mais ce n'est pas une condition pour comprendre le roman et justement je laisse le fait de dire si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse d'aller chercher cette voix. En fait, ce n'est pas du tout grave. Ça fait aussi partie de la magie et de la liberté que les lecteurs et lectrices ont en lisant le livre.
Je ne me suis même pas posé la question de savoir qui c'était. Ce qui m'a fasciné, c'est la poésie, en fait. Mais cette poésie, elle est aussi dans le texte à la troisième personne. Et le théâtre y est aussi. Il y a très souvent des passages de paroles, en fait, d'oralité. Hein. Donc, il y a ce mélange d'écriture.
Oui, alors déjà sur l'oralité et le dialogue, il y a un moment où effectivement, lorsque les personnages parlent, on les entend. On les entend parler, donc il y a le petit côté théâtral. Il y a aussi des incursions de style indirect où en fait la phrase est partie et on a une phrase de la pensée du personnage. Et ensuite, on continue avec la phrase parce que ce que je souhaite, moi, c'est vraiment que cela soit incarné dans les personnages, tout le récit. Et donc, il y a un moment, il y a le personnage qui prend le dessus et qui parle alors que je suis à la troisième personne, en fait. Et puis ensuite, le côté poétique. Bon, déjà, moi, j'adore la poésie depuis que je suis enfant et je pense que j'en suis très influencée. Et en plus, après, j'ai été passionnée par la poésie latino-américaine et Dieu sait qu'il y a d'immenses poètes dans ces contrées là-bas. Mais elle m'a aidé, cette poésie, à aviver les perceptions de ce que peuvent voir les personnages, de ce qu'ils peuvent ressentir. Parce qu'elles sortent du sens. Et ça, c'est ce que j'expliquais au café littéraire ce matin aussi, c'est que souvent, Lorsque j'ai le choix en peut-être deux ou trois mots qui sont des synonymes, je vais chercher celui qui a le sens ou une allitération ou quelque chose qui me permette de transmettre un état d'âme d'un personnage. Ou par exemple, lorsqu'il y a les épisodes les plus cruels, c'est aussi d'entendre le souffle d'un personnage qui vient de prendre la tragédie, vraiment qui s'est lancé sur lui et qui a le souffle coupé. Il faut que ça apparaisse même dans la sonorité de la phrase. Et donc, je n'ai pas besoin de dire, bah, le voilà, il est désemparé. C'est juste en entendant les phrases qu'on se mette à sa place. Ou au contraire, les moments où ils sont emportés par des grands sentiments, où il y a les morts, mais il y a aussi l'amour dans le roman, c'est qu'ils sont emportés par le rythme d'une phrase plus longue, avec des mots qui s'étendent de plus. Alors qu'il y a plusieurs fois, lors des moments les plus de rupture, où j'enlève même les verbes, parce qu'à un moment, on n'a pas besoin du verbe pour avoir le sens. Donc j'y vais un peu en staccato, comme en musique, parce que l'important, c'est de transmettre, en fait. Ce n'est pas tellement de décrire de manière très objective, c'est juste de transmettre une émotion au lieu de l'écrire avec des mots.
Alors, Yann Lespous, il me semble que l'enjeu de votre texte, c'était d'abord d'être extrêmement documenté, extrêmement juste. Moi, j'ai appris plein de choses sur la navigation. Je vous remercie.
Moi aussi.
Voilà, beaucoup de recherches pendant le confinement, je crois. Voilà. Et comment est-ce qu'on équilibre cette partie documentaire, qui est très forte, avec la dimension romanesque? Comment est-ce qu'on... Par les personnages, j'imagine.
Oui.
Mais dans l'écriture aussi.
C'est ça. Et en fait, Alors, ça va être l'écriture, bien entendu, c'est les personnages. Et puis, c'est le fait de la documentation, de la digérer, tout simplement. C'est-à-dire... Bon, en gros, moi, j'ai passé 3 ans sur ce roman. J'ai passé 2 ans à faire la documentation. Et comme vous le disiez, c'était le confinement, c'était super. Et vivement le prochain.
Peut-être que le prochain, c'est une grande tempête qui s'arrête plus.
Allez savoir. Et donc, voilà, c'est 2 ans de documentation. Ça veut dire prendre plein de notes. Et vraiment intégrer tout ça pour au moment de l'écriture ne pas avoir besoin d'y revenir pour que ça apparaisse en fond et que ça soit pas au cœur du roman. Le cœur du roman, c'est les personnages. Le cœur du roman, c'est les sensations des personnages. C'est ça. C'est pas développer 3 pages sur le gréement d'un galion. Quoi. Voilà. Donc le gréement du galion, il existe. Et il y a des moments où on va avoir besoin de ces éléments-là. Mais il faut que ça reste en arrière-plan. Il faut que ça soit intégré. On n'est pas là pour faire une démonstration de j'ai fait des super recherches, j'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai découvert. Voilà. Il faut vraiment réussir à digérer cette documentation pour qu'elle vienne naturellement. Et c'est pour ça que, par exemple, à un moment, mon éditeur s'est posé la question de dire est-ce que ça vaut le coup de mettre un glossaire, par exemple. Et donc je disais que non, parce qu'a priori... Moi aussi, ça m'est arrivé de lire des tas de romans d'aventure et tout, dans lesquels il y a des mots que je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la poésie aussi d'un texte, de se laisser embarquer par un vocabulaire qui nous est étranger, qui nous apparaît un peu magique, un peu étonnant. Et on n'a pas besoin d'avoir un glossaire et de connaître tous les mots. À un moment, on se laisse emporter, on a le contexte et voilà. Et ça fait partie de tout ça.
Il y a aussi, j'ai trouvé des petits personnages qui apparaissent comme ça, mais qui sont incarnés, de fait. Michele, par exemple, qui ne reverra jamais Carlotta. Oui. Voilà, c'est des petits passages ouais. Qui humanisent encore plus le texte.
Oui, parce qu'on a les personnages principaux, mais ils sont dans un monde dans lequel il y a un tourbillon de vie. Il y a des tas de gens, donc c'est intéressant d'avoir aussi, voilà, de voir passer... Tous ces gens qui sont impliqués dans ces voyages, dans ces aventures-là. Effectivement, il n'y a pas que les personnages principaux, ils sont confrontés à tout un tas de personnages qui eux-mêmes ont une vie. Donc c'était important que chacun des personnages, même secondaires, soit incarné un minimum. Qu'il ait, moi, dans mon idée, quand je les écris, même s'ils apparaissent un petit peu, j'ai plus ou moins l'idée de ce qu'est leur vie. On les prend à un moment, mais je sais à peu près d'où ils viennent et où ils vont.
Alors, je vais avouer que Ignacio, il m'a fait penser à Quick Egg de Melville, dans Moby Dick.
D'accord.
Voilà. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quand on écrit un roman maritime d'aventure, ou un roman de la Cordillère, dans le réalisme magique, est-ce qu'il y a des livres qui sont dans l'arrière-paysage? Est-ce qu'il y a des écritures qui sont là?
En tant
que... à Melville, j'ai pensé à Jules Verne.
Oui, mais en même temps, quand on écrit, on est le produit de tout ce qu'on a lu en tant qu'écrivain aussi. On n'échappe pas à un certain nombre de, voilà, d'archétypes aussi, hein, de ce genre de roman. Donc c'est normal, c'est pas forcément voulu, mais on les a en nous, on réinvente rien. Enfin, voilà, on a quand même quelques millénaires d'écriture derrière nous, donc voilà, et des tas d'œuvres. Nous, on réarrange les choses à notre manière, on essaie d'en faire quelque chose d'un peu original. Mais quand on écrit un roman de genre, là c'est le cas, c'est un roman d'aventure, on a quand même tout un tas d'archétypes qui sont là.
Alors moi, je te rejoins complètement sur l'analyse. À la différence, moi, que d'avoir lu Melville, Hemingway, Jack London, qui étaient mes grands héros de l'enfance, m'ont poussé à aller faire ce que j'ai fait dans la Cordillère, en fait. Donc je pense qu'il y a un lien avec le livre indirect, parce que je rêvais, moi, de vivre ces destins des grands pionniers, d'être dans la nature. Donc l'influence littéraire, elle est certainement, comme tu le dis, parce qu'il nous façonne, mais en fait, elle est aussi sur le fait que je suis allée le chercher, moi, dans la Cordillère aussi, ouais. Voilà, alors pas sur les baleiniers, mais sur le côté cordillère, oui.
Merci. On a peut-être le temps pour... il fait presque silencieux. Peut-être le temps pour quelques questions, si vous avez des questions à poser à nos deux invités. Et je rappelle que de toute façon, il y aura signature des livres dans la librairie tout à l'heure. Il y a un micro qui vous attend.
Question pour Yann Lespousse. D'où vous est venu le titre « Pour mourir le monde » ? Est-ce qu'il y a une signification ?
Ah oui, alors ça, c'est une longue histoire. C'est toute une aventure, déjà, parce que je suis nul en titre. Et mon éditeur n'est pas meilleur, voilà, je vais vous dire. Non, vas-y, il m'a dit « Il faut monde » dans le titre. J'ai dit « Ouais, super, ça ne va pas nous avancer à grand-chose. » Et il voulait à tout prix qu'il y ait monde. Alors on a cherché un moment, on n'arrivait pas à trouver, et j'ai trouvé ce poème d'Antonio Vieira, « Naître petit et mourir grand est l'accomplissement d'un homme, c'est pourquoi Dieu a donné si peu de terre pour sa naissance et tant pour sa sépulture, un lopin de terre pour naître, la terre entière pour mourir, pour naître le Portugal, pour mourir le monde. » Et je me suis dit que ça... Alors à la fois... Vous pouvez l'applaudir, il est très heureux. Il est mort depuis quelques siècles, mais ça lui fait plaisir. Et Antonio Vieira, je trouve qu'il résumait très très bien l'état d'esprit portugais et l'état d'esprit des personnages. Donc j'ai proposé ça à mon éditeur, qui m'a dit, hors de question, on ne met pas mourir et une virgule dans un titre. Ça fait quand même beaucoup. Mourir, c'est très négatif. Et donc on a beaucoup discuté. Il a dit oui, on pourrait faire quelque chose comme Les Chemins du Monde, ce qui ressemble plus à un titre de collection de guide de voyage.
Et vous avez sorti la hache et il s'est incliné.
Et alors voilà. Non, en fait, je l'ai eu à l'usure pendant un moment. En fait, il aimait bien le titre, mais il était rebuté par mourir. Parce que comme il me disait, moi j'ai envie de vendre des livres en fait, s'il est éditeur. Ouais,
ah bon ?
Et, voilà. Et finalement, faute de trouver mieux. Il a accepté, donc voilà, ça vient de là.
Il est très beau ce titre, moi j'aime beaucoup. Ouais. D'autres questions? Oui, il y a une question au troisième rang. Voilà, deuxième rang, pardon.
Oui, pour Yann, juste une précision historique. Le duc d'Épernon, dont il est fait mention, ce grand méchant, c'est celui de Cadillac en Gironde ou...
Oui, c'était le gouverneur de Guyenne, oui, c'était lui.
D'accord. Il ne s'est pas montré plus brillant que les autres. Hein.
Non.
Merci. Alors pour Cordillera, je me demandais, comme ça, en vous écoutant, j'ai beaucoup aimé le bouquin, on est nombreux à l'avoir beaucoup aimé, hein, ici, sans doute. Je me demandais s'il avait été traduit en espagnol.
C'est
je
en
dis
cours.
Pas latino-américain, mais en, disons, en langue espagnole, quand même.
Non, c'est en cours, effectivement, et j'ai beaucoup de chance, parce que dans le langage espagnol, alors déjà, le chilien est très différent, et le chilien de la campagne l'est encore plus, Et là, j'ai de la chance parce que c'est un ami qui est écrivain chilien et qui parle parfaitement le français, qui a traduit les premiers chapitres. Et justement, ce que je vous disais sur la poésie dans le texte, en fait, sans que je ne lui ai rien dit, il avait compris en traduisant qu'il y a des mots qui n'étaient pas là pour le sens, et donc il est en train d'essayer de les trouver en espagnol. Et donc c'est en cours, effectivement, et je pense que ça sera assez émouvant de le voir, de le relire en espagnol, oui. Les Indiens ? Oui. Oui, alors effectivement, Luisa, la grand-mère, est donc d'origine mapuche. Et effectivement, eux, ils parlent le mapudungun, mais là, maintenant, ils sont en espagnol. Et là, je travaille beaucoup en ce moment plutôt sur le côté Patagonie et d'autres populations qui ont été décimées et dont on n'a plus de représentants et dont on a perdu la langue. Alors que le mapudungun est encore très vivant aujourd'hui et une très belle langue d'ailleurs.
Toujours sur Cordillera, une influence d'Isabelle Allende est là-dedans
Alors si elle est indirecte, j'ai une influence plutôt, et d'ailleurs je lui rends hommage en Inkipit, je pense à Gabriela Mistral. Alors Pablo Neruda certainement, mais moins, parce que moi c'est Gabriela Mistral que je préfère. Après, pour ceux qui aiment le Chili, sinon je recommande Pablo de Roca, qui a été dans l'ombre de Pablo Neruda. Gabriela Mistral, alors déjà, il y a un petit hommage à notre France, puisqu'elle s'appelle Gabriela pour Gabriel D'Annunzio et Mistral pour Frédéric Mistral. Donc voilà, ça c'est le côté hommage à la France. Et Gabriela Mistral était une femme du nord du Chili, la première prix Nobel de littérature, la première poétesse prix Nobel de littérature, la première prix Nobel de littérature latino-américaine. Et d'ailleurs, on va le fêter l'an prochain, puisqu'elle l'a reçue en 1945. Elle est née dans un tout petit village, elle était institutrice, et ensuite elle est devenue un monument national dans la poésie et aussi dans les réformes de l'éducation, où elle avait été envoyée en Patagonie et puis au Mexique. Et elle est décédée ensuite aux États-Unis. Et Mistral avait un lien avec la terre très particulier, parce qu'elle venait de la vallée de Elqui, qui est dans le nord du Chili, qui est très minérale, qui a un côté très magique. Et elle avait une manière de décrire la nature très particulière, très mystique. Et c'est aussi pour cela que j'ai placé quelques-uns de ses vers au début du roman, aussi pour lui rendre hommage, parce que pendant très longtemps, elle a été reléguée aux comptines qu'elle avait écrites pour les enfants, qui sont formidables, c'est sûr, mais elle avait écrit une œuvre impressionnante qui avait été un peu délaissée parce qu'on lui avait laissé le côté professoral et puis la poète pour les enfants, en fait. Alors que lorsqu'on étudie sa poésie, elle est d'une beauté, d'une force et puis d'une révolution aussi très, très importante. Donc voilà, je serais plutôt mistralienne que côté Isabelle Allende, même si je reconnais évidemment toute la qualité de son œuvre.
Vers la fin du roman, il y a une petite critique qu'émet Esteban sur Pablo Neruda. Donc il devrait renoncer un peu aux vieilleries romantiques. Ça m'a beaucoup amusée.
Oui, effectivement, parce que Neruda était encore dans ce moment-là, en 1930, parce que Neruda va avoir un vrai déclic au moment de la guerre civile, et notamment au moment où ses amis, où Garcia Lorca va être abattu, va disparaître, être exécuté, et puis tous ses amis emprisonnés. Et avant, il était dans les poèmes, les chansons d'amour, qui effectivement, c'était un peu ampoulé. Et ensuite, il change son style, et donc je me suis un peu amusée. Aussi parce que Esteban, à la fin du livre, est passé par toutes ces tragédies, et lui-même était un idéaliste, que la vie a appris à façonner différemment. Donc c'était aussi le reflet de Esteban qui était en avance par rapport à Neruda sur le fait que la vie n'était pas forcément tranquille, un long fleuve tranquille, et que voilà, il allait vite ouvrir les yeux sur les horreurs du monde.
Il y a encore une question, je crois.
Oui, merci de prendre ma question. Est-ce qu'un jeune garçon de bientôt 14 ans, dont les grands-parents sont portugais, mais qui est en France, est-ce que le niveau, il peut avoir du plaisir, c'est un lecteur, avoir du plaisir à voir votre livre, ou est-ce que ça serait un peu compliqué?
C'est à qui vous vous adressez? À Yann? D'accord.
Je ne sais pas si je suis le meilleur juge pour ça. Si, je pense que s'il est lecteur, ça peut marcher.
Je pense qu'on va mettre un terme à cet entretien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.